Bonjour à tous. En effet, je vais vous présenter un travail qui est un peu plus académique aujourd'hui par rapport aux présentations qu'on a pu voir hier. Mais j'espère pouvoir vous convaincre qu'il permet de répondre à des cas concrets pour des problèmes pratiques. Donc, au sommaire de cette présentation, on va voir un processus d'optimisation qui est en trois étapes. La première étape, c'est un pré-processing intelligent avec de l'échantillonnage des données. On va ensuite voir comment on va optimiser l'entraînement et les paramètres des classifiers qui sont utilisés pour résoudre ce problème. Et enfin, on va essayer de combiner les prédictions de tous ces algorithmes de machine learning dans un ensemble, ce qu'on appelle communément ensemble learning. Un petit rappel pour commencer sur les systèmes de détection d'intrusion. Donc ici, on voit une topologie très classique de réseau filaire avec un IDS qui va servir à défendre un réseau de systèmes. C'est une topologie d'exemple. On pourrait placer différemment l'IDS et on pourrait aussi avoir un IDS sur un réseau qui n'est pas filaire. L'IDS va analyser le trafic réseau et il y a deux façons de faire de la détection d'intrusion à partir de là. Soit il va fonctionner par signature et du coup il va comparer la signature du trafic réseau avec une base de données de signature pour voir si une attaque. Ou alors, il va fonctionner par anomalie, et du coup, il va comparer le comportement du trafic réseau qu'il observe avec le comportement normal du trafic réseau qu'il aura appris. Ça, c'est la détection par anomalie qui a été évoquée déjà plusieurs fois hier. Nous allons nous intéresser à un dataset qui est bien connu pour les gens qui travaillent en détection d'intrusion. Il s'agit du NSL-KDD. Le NSL-KDD est assez connu et en même temps il est un peu infamous parce que il possède pas mal de défauts. C'est pour ça qu'il a été qualifié hier d'obsolète, si j'ai bien compris. Ce dataset date de 2009. Il est issu du KDD Cup 99 qui, comme son nom l'indique, date de 1999 et qui lui-même est issu d'un projet de l'armée américaine, la DARPA 1998, qui analysait le trafic réseau d'un réseau local simulé de l'US Air Force. Donc autant vous dire que c'est un réseau simulé de l'US Air Force et de 98, donc maintenant il a 20 ans ou plus. Donc ça ne représente pas bien les attaques, les menaces qu'il y a actuellement sur les réseaux modernes, mais il est quand même toujours utilisé, notamment parce que de nombreux auteurs ont utilisé ce dataset par le passé. Et du coup, il y a pas mal de résultats avec lesquels se comparer quand nous on fait une solution. Le NSL-KDD lui-même donc, est composé de 41 features plus un label. Le but, c'est d'utiliser les 41 features pour prédire ce label. Ces features sont souvent extraites des entêtes des protocoles réseau. Ça peut être aussi des statistiques réalisées grâce à ces entêtes, donc sur une connexion entière. Ici, on a deux exemples de connexion. Donc, la première, c'est une connexion normale. Il n'y a pas d'attaque, tout va bien. Et la seconde, c'est une attaque de type Neptune, donc un déni de service. Et donc, on va essayer de reconnaître correctement ces attaques. Le processus de classification utilise les 41 features en input d'un classifier. Donc, dans notre cas, ça va être un algorithme de machine learning. Et le but, donc, c'est d'obtenir en sortie une des cinq classes. Normal, déni de service, probe, remote to local ou user to root. Donc on a quatre classes d'attaque plus une classe normale et notre but va être de prédire avec le plus de précision possible toutes les connexions du dataset. Concernant le pré-processing du dataset, on voit ici le dataset d'entraînement à gauche. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que les classes sont très déséquilibrées, puisqu'on a la classe normale qui prend 54% de l'ensemble, alors que la classe U2R est légèrement au-dessus de 0%. Donc il y a vraiment très très peu de connexions user to root comparées aux connexions normales. Et on peut déjà identifier ça comme un problème, puisque l'algorithme de machine learning durant son entraînement va bien davantage apprendre les connexions de type normal que les connexions de type user to root. Donc forcément, elles seront moins bien reconnues une fois l'algorithme entraîné. Et on peut voir un deuxième problème aussi quand on compare avec le set de tests. C'est particulièrement visible avec les attaques de type remote to local, R2L. Elles passent de 1% sur le dataset d'entraînement à 13% sur le dataset de test. Et donc là, c'est pareil, on va entraîner très, très faiblement notre classifier sur un type d'attaque qui va être vu bien plus de fois qu'il a été, que de nombre de fois où il a été entraîné sur le set de tests. Donc set de tests qui est utilisé pour évaluer les performances du classifier une fois qu'il est entraîné, qui permet un peu de représenter le système une fois en production. Et il y a encore un troisième problème qui n'apparaît pas ici, mais il y a 24 types d'attaques sur le dataset d'entraînement et il y en a 14 nouvelles sur le dataset de test. Donc on a rajouté des attaques que le classifier n'a jamais vues. Donc il doit quand même les catégoriser correctement, mais il ne connaît pas ces attaques précisément. Donc une fois qu'on est là, une solution qui est possible, c'est de surreprésenter, créer 5 datasets différents à partir de datasets d'entraînement pour surreprésenter successivement toutes les classes du dataset. L'idée derrière, c'est qu'on va pouvoir apprendre correctement un classifier à reconnaître des attaques de type user-to-root en surreprésentant cette classe par rapport aux autres. Et donc, on va spécialiser les algorithmes de machine learning à apprendre vraiment correctement toutes les classes, parce que notre but, c'est aussi de pouvoir reconnaître toutes les classes, même les user to root, même si elles sont très peu présentes dans le dataset. Comment on va faire ça concrètement? On va utiliser des algorithmes d'échantillonnage. Donc, il y a deux formes d'échantillonnage, le suréchantillonnage et le sous-échantillonnage. Ils ont des fonctionnements qui sont très différents. Il y en a qui sont vraiment très simples. Ils vont, par exemple, juste suréchantillonner en faisant un copier-coller de données déjà existantes. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus évolués, qui font eux-mêmes appel à des algorithmes de machine learning pour faire le suréchantillonnage ou le sous-échantillonnage. Et donc, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut combiner le meilleur algorithme de sous-échantillonnage avec le meilleur algorithme de suréchantillonnage. Et meilleur algorithme ici, c'est dans le sens où c'est celui qui va nous permettre d'obtenir la meilleure R sous la courbe. Un exemple avec la classe normale. Donc ici, on voit qu'on a testé tous les algorithmes d'échantillonnage sur un dataset d'évaluation, de validation, pour avoir leur R sous la courbe. Et on va sélectionner la meilleure R sous la courbe pour les algorithmes de sous-échantillonnage. Ici, c'est AllKNN, le meilleur algorithme. Et pareil avec le suréchantillonnage, ici c'est SVM Smooth. Donc on va les appliquer pour sous-échantillonner les classes normales, déni de service et probe, et pour sous-échantillonner les classes R2L et U2R. Et on va aboutir à la répartition et la distribution des classes qu'on peut voir à droite, où la classe normale est surreprésentée par rapport aux autres. Un cas qui est un peu à l'opposé, c'est avec user-to-root, parce que user-to-root était vraiment très peu représenté. Et là, on peut voir que ce ne sont pas les mêmes algorithmes d'échantillonnage qui ont été retenus par le processus de sélection. C'est intéressant parce que en choisissant de faire ce pré-processing, cet échantillonnage classe par classe, il y avait une hypothèse qu'on faisait qui était qu'il est probablement plus optimal d'essayer de faire classe par classe, de choisir nos algorithmes d'échantillonnage que de choisir ces algorithmes pour toutes les classes. Et ici, on peut voir que ça a l'air de se confirmer puisqu'on ne voit pas les mêmes algorithmes que pour la classe normale. Et donc, on va utiliser Cluster Centroids et SmoothTomic pour sous-échantillonner toutes les classes, sauf U2R, qui est fortement sur-échantillonné, comme on peut le voir dans la distribution à droite. Alors, une fois qu'on a obtenu tous ces datasets qui sont pré-processés, qui sont échantillonnés correctement, on va vouloir entraîner un ensemble de 10 algorithmes de machine learning. Alors, j'ai vu hier qu'il y avait un mini débat sur les algorithmes de machine learning traditionnels contre les réseaux de neurones. On va y participer aussi puisqu'on a un réseau de neurones, le multilayer perceptron qui est tout en bas. Donc on verra si lors de l'évaluation qui aura les meilleurs résultats pour ce problème. Ici, on va entraîner tous ces algorithmes et au passage, on va aussi les optimiser avec un processus d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les paramètres des algorithmes pour maximiser en fait leur performance, leur qualité de détection. Et on va utiliser pour ça le Tree Structure Pattern Estimator, qui est un algorithme d'optimisation qui pourrait être plus connu, qui n'est pas super célèbre. Mais dans nos tests, on s'est rapidement rendu compte qu'il permettait non seulement d'obtenir des résultats plus rapides que d'autres algorithmes comme le random search. Et en plus, ces résultats étaient aussi plus optimaux. Donc on l'a gardé, on l'a conservé tout au long de chaque étape d'optimisation, on utilise le tree structure partition estimator. Donc à la fin de cette étape, on obtient notre ensemble de 10 algorithmes de machine learning qui sont tous entraînés pour chacun des 5 datasets préprocessés. On va utiliser les prédictions de ces algorithmes pour les combiner. Parce que l'ensemble learning, on sait que ça fonctionne bien, et du coup on aimerait essayer de combiner intelligemment les prédictions de tous ces algorithmes de machine learning pour améliorer encore la précision de la détection. Donc ici on va le faire classe par classe, donc 10 algorithmes par 10 algorithmes. Et on a choisi une règle très simple de combinaison pour l'ensemble learning, c'est juste une somme pondérée. Et donc notre but ici, ça va être de déterminer quels sont les meilleurs poids pour maximiser la qualité de la détection ici. Alors on a utilisé un processus d'optimisation qui est à la fois qui nous a semblé original et puis qui était aussi assez rapide en termes de temps de calcul. C'est par donc comparaison de deux poids à chaque fois. On va tester 2000 valeurs pour ces deux poids. Et si la combinaison linéaire des prédictions avec ces poids permet d'augmenter l'accuracy, ben on va garder les meilleurs poids qui ont permis d'augmenter l'accuracy. Enfin, d'augmenter avec la meilleure accuracy. Et si aucune des 2000 valeurs ne permet d'augmenter l'accuracy, et ben on abandonne, on rejette le deuxième classifier. On ne garde que ceux qui permettent d'améliorer l'accuracy. Et voilà, c'est un processus itératif. On va recommencer ensuite en ajoutant un autre classifier, un autre et un autre. Ici, il y a 5 classifiers, mais si vous avez bien suivi, on en a 10. Donc, c'est juste pour l'exemple. Et donc, à la fin, on aboutit avec une prédiction pour l'ensemble de la classe avec des ratios qui sont optimisés. Un exemple avec la classe probe. Donc on peut voir au milieu les poids, 0,29 pour la MLP3 et 0,14 pour les autres. Et on voit aussi, j'ai calculé a posteriori les erreurs sur la courbe pour chaque algorithme, histoire de pouvoir savoir si le processus d'ensemble learning avait un sens, s'il permettait vraiment d'améliorer les résultats ou non. Donc on peut voir au passage que les MLP, donc les multilayer perceptrons, les réseaux de neurones sont les gagnants de ce problème puisqu'ils permettent à chaque fois d'obtenir les meilleurs résultats. Ça se vérifie aussi sur les autres classes, autres que propres. Donc pour ce problème en tout cas, les réseaux de neurones sont supérieurs aux algorithmes de machine learning dits classiques. Il y a une erreur à droite. Il y a un problème de copier-coller, ce ne sont pas les bons ratios à droite, les bons ratios sont bien à gauche, 0,29, 0,14, etc. À droite, si je me souviens bien, c'est la classe U2R, ce sont ces ratios à lui. Bref, le résultat final ici, c'est qu'on peut voir que l'erreur sous la courbe de l'ensemble learning, avec la combinaison de tous ces ratios et toutes ces prédictions, est de 0,91,84. Alors que l'erreur sur la courbe du meilleur des classifiers qui le composent est de 0,9022. Donc l'ensemble learning fonctionne bien ici. Il permet vraiment d'améliorer les résultats. Pour récapituler un peu l'architecture globale, on commence donc du dataset, du NSLKDD. Et à partir de ce dataset, on va créer 5 datasets d'entraînement et de validation, en échantillonnant correctement nos données pour surreprésenter successivement chacune des 5 classes. Sur ces datasets préprocessés, on va entraîner un ensemble de 10 algorithmes machine learning à chaque fois, qu'on va optimiser et dont on va récupérer les prédictions pour réaliser de l'ensemble learning via une moyenne pondérée. On optimise les ratios de cette moyenne pondérée avec le processus d'optimisation en graphe que j'ai montré tout à l'heure. Et donc on combine comme ça ces prédictions pour avoir la prédiction de chacune des classes. Et ensuite, on va combiner la prédiction de toutes les classes en une prédiction finale qui correspond simplement à la classe de la prédiction la plus forte, parce que les prédictions sont entre 0 et 1, et donc on va choisir la prédiction la plus élevée pour déterminer à quelle classe appartient cette connexion. L'hypothèse derrière, c'est que on pense que, ça se vérifie expérimentalement, la plupart du temps, un algorithme qui fait une erreur de classification est moins sûr de lui qu'un algorithme qui classifie bien. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser ici la prédiction maximale pour déterminer la prédiction finale. Alors, concernant les résultats, on obtient en accuracy globale 86,59% pour les 5 classes. Et aussi un taux de faux positif de 1,66%. Donc ce sont des résultats à la fois au niveau de l'accuracy et du taux de faux positif qui sont supérieurs à ceux qu'on rencontre, enfin qui sont meilleurs que ceux qu'on rencontre dans la littérature. Même si un taux de faux positif de 1,66% peut faire peur, puisque dans un cas réel, ça serait un taux de faux positif énorme et l'IDES serait simplement inutilisable. Mais il faut bien se rappeler qu'il s'agit d'un dataset NSLKDD qui n'est pas exactement une représentation d'un réseau réel et il est réputé quand même comme plutôt difficile et les taux de faux positifs qu'on observe dans la littérature sont quand même assez élevés, comme on peut le voir dans le tableau ici. Donc ça reste un bon score. Et un moment d'autocritique, les attaques R2L et U2R sont malheureusement toujours pas très bien détectées. L'idée, c'est que dans des futurs travaux, il faudrait probablement ne pas se contenter seulement du suréchantillonnage de ces classes dans l'étape de pré-processing. Visiblement, ça ne suffit pas pour que les classifiers les détectent correctement. Donc il faudrait en plus probablement rajouter des poids sur les erreurs que font les algorithmes en augmentant les poids des erreurs sur ces deux classes, on les forcerait comme ça à mieux les apprendre puisqu'on les punirait plus à chaque fois qu'ils font des erreurs. Ce processus peut être appliqué aussi à d'autres datasets qui sont plus récents comme le CIC IDES 2017. Et il peut même être appliqué à des réseaux réels du moment qu'on parle de problèmes de classification et aussi au niveau après il va falloir l'adapter pour prendre des contraintes de temps réel peut-être puisque ici c'est sur de l'offline learning. Ce qu'il faut retenir au-delà des résultats c'est surtout que le processus d'optimisation est automatisé de l'échantillonnage aux résultats finaux. Du coup il choisit lui-même tous les algorithmes qui sont impliqués, c'est-à-dire qu'il choisit dans une liste quels algorithmes d'échantillonnage appliquer pour améliorer les résultats et ensuite quels algorithmes de machine learning appliquer pour bien reconnaître la classe. Et en plus, il optimise à chaque étape les algorithmes et les ratios pour la combinaison de l'ensemble learning pour améliorer les résultats. Donc cette méthode automatisée parvient malgré tout à avoir de meilleurs résultats que ceux observés dans la littérature, ce qui laisse penser que l'automatisation de ce genre de processus a de l'avenir et que même avec une automatisation assez simple comme celle que je présente ici, on parvient à obtenir de très bons résultats, ce qui est encourageant pour un déploiement réel sur des réseaux chez des clients. On pourrait peut-être obtenir des résultats similaires, donc automatiser au plus possible tout le processus d'entraînement et d'optimisation qui aujourd'hui prend beaucoup de temps aux opérateurs. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Maxime. Donc la parole est à la SAM pour les questions. Attendez.
Bonjour. De temps. Ça temps réel. Par rapport à tout ce qui est mis en place, ça paraît envisageable, parce qu'il y a plein d'algorithmes, des réseaux de neurones et plein de... Si on doit faire tourner ça sur une infrastructure où justement on a beaucoup de trafic, c'est...
Oui, en effet. Ça va dépendre beaucoup du réseau qui est étudié. Après, une fois que les algorithmes sont entraînés, le temps d'exécution est quand même très rapide. Il est vraiment très rapide. Donc ça va dépendre vraiment du trafic, du débit que vous avez sur votre réseau. Et ensuite, on peut aussi moduler le nombre d'algorithmes qui est utilisé. En réduisant le nombre d'algorithmes, on va aussi réduire le nombre de temps d'exécution. Et puis on peut aussi les paralléliser pour aller plus vite et gagner du temps là-dessus.
Il y a eu des tests déjà, des tests qui ont été menés justement ou...
Non, pas ici, pas avec du trafic réel. Non. Je l'ai juste appliqué à des datasets, donc en faisant du offline. Ce n'était pas une contrainte de ce travail. Merci.
En haut à droite, en haut. Continuez sur votre lancée, on reviendra.
Bonjour, j'ai une question en fait par rapport aux résultats sur les réseaux de neurones. Donc on a vu qu'on a des très bons résultats. Dans la littérature sur d'autres domaines, on a beaucoup de travaux sur du deep learning. Est-ce que vous avez fait des tests pour inclure dans vos méthodes quelques réseaux deep learning ?
Oui, c'est une très bonne question. Ici, je n'ai pas précisé, mais les multi-layer passe-temps qu'on utilise n'ont qu'une seule couche. Donc ils sont vraiment très simples. J'ai essayé pas mal de travailler avec le deep learning. Il y en a aussi en effet pas mal dans la littérature d'articles sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est que ça se prête assez mal à ce problème. Pour NSLKD en tout cas et KD Cup, le deep learning fonctionne moins bien que des réseaux vraiment très simples. Plus on ajoute de couches, plus on dégrade les performances et les réseaux type convolutionnel ont tendance à très mal fonctionner sur ce problème.
Ah. Allez-y.
Au niveau méthodologie, vous avez utilisé donc un dataset d'entraînement, un dataset de validation. Est-ce que vous avez aussi utilisé un dataset de test ?
Oui, tout à fait. Le dataset de test a été préservé jusqu'à la fin pour les résultats finaux, même si je me permets ici de montrer des résultats sur le dataset de test pour montrer que ça fonctionne bien, mais sinon, la méthodologie a été respectée.
J'ai peut-être pas très bien saisi sur la partie sanction des algorithmes qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que la sanction, elle est binaire, c'est-à-dire que tu t'es trompé, tu étais bon, ou est-ce qu'on peut lui émettre une certaine notion de marge de progression en disant tu t'es trompé à tant de pourcentage ? Est-ce que c'est pas d'ailleurs plus productif pour la sanction du, entre guillemets, de l'algorithme qui a échoué ?
Oui, il y a des fonctions de... il y a des loss functions, des fonctions de coût. Qui en effet punit ces algorithmes à la hauteur de la distance entre la prédiction réelle et la prédiction qu'ils ont effectuée. Donc en effet, on prend en compte cette histoire de... Ce n'est pas binaire, c'est vraiment en fonction de à quel point tu t'es trompé, on te punit.
Il y en a une en bas à droite, tout est à droite aujourd'hui, enfin pour nous.
Bonjour. Est-ce que vous avez considéré aussi une phase de sélection de caractéristiques, feature selection, pour chaque algorithme ?
Alors, dans ce problème, non, puisque les features sont déjà choisies pour nous. On aurait pu en effet réduire après encore le nombre de features. C'est fait dans certains papiers. Je pense que ça peut amener à améliorer les résultats, en effet, c'est encore une étape qui permettrait d'augmenter les résultats. Moi, j'ai un peu essayé de le faire et je n'ai pas réussi à montrer que ça améliorait mes résultats, mais je pense que des travaux plus élaborés sur le sujet permettraient en effet d'améliorer les résultats en réduisant le nombre de features d'entrée.
On a le temps pour une dernière question pour Maxime. En bas à gauche, troisième rang.
Oui, pour le calcul des pondérations entre différents algos, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus élégant pour trouver justement le bon, le bon level de chacun.
Vous parlez du système d'optimisation en graphe, là, avec comparaison de par deux, c'est possible, honnêtement. C'était un peu la partie expérimentale de l'architecture. Il y aurait probablement des méthodes plus élaborées, plus élégantes, en effet, pour obtenir de meilleurs résultats, peut-être.